Archivif. Un voyage entre culture, patrimoine et sport au cœur du département de l'Ardèche.
Bonjour à toutes et à tous, auditrices et auditeurs d'Ardèche et de la galaxie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la deuxième saison d'Archivif qui vous invite à un voyage entre culture, patrimoine et sport, comme le pincement de cordes, en Ardèche. Un voyage, comme toujours, qui propose des allers-retours entre passé et présent, voire entre passé et futur, et qui esquisse un portrait sensible et vivant de notre héritage en cours comme celle de la Maison Vérinck, théâtre éphémère de l'une des sept merveilles de l'Ardèche dont on va parler aujourd'hui. Archivif, c'est une coproduction des radios complices RDB et RCF et un partenariat avec le département et notamment les archives départementales. Et cette année, nous explorons les sept merveilles de l'Ardèche, sept événements proposés sur sept mois de l'année dans sept sites ardéchois. Dans cet épisode, le cours de l'histoire rejoint une cour chargée d'histoire et de courts opus musicaux. Pour faire court, nous parlons ici de ce qui va se produire dimanche 6 juillet à la Maison Vérinck d'Aubenas, l'une des plus anciennes demeures de la ville, un concert de l'ensemble Fabria autour de miniatures musicales, ensemble invité par la Baume en musique. Et pour parler des étincelles et peut-être même des courts-circuits qui risquent de se produire lors de cette rencontre entre architecture, musique et histoire, nous sommes nombreux autour de cette table. Estelle Arbulot, qui est violoniste, qui joue dans l'ensemble Fabria, invitée donc par la Baume en musique. Bonjour Estelle.
Bonjour.
Également avec nous Alain Chevalier, propriétaire de la Maison Vérinck. Bonjour Alain.
Bonjour.
Merci d'être là. Aude Poinceau, qui est conservatrice déléguée des antiquités et des objets d'art aux archives départementales.
Bonjour.
Bonjour Aude. Et puis évidemment Enzo Roux, qui est chargé de mission 7 merveilles de l'Ardèche au département.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Salut Enzo. Alors pour commencer, on va planter le décor avec vous Alain, propriétaire de la Maison Vérinck. Le décor, c'est justement cette maison et cette cour, qui n'est pas qu'un décor d'ailleurs, qui va être protagoniste de l'événement. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette Maison Vérinck ?
Bien volontiers. En effet, cette Maison Vérinck est une des plus anciennes d'Aubenas. Elle a été construite sur les vestiges du château vieux d'Aubenas, château dont on connaît peu de choses, si ce n'est qu'il était là avant le château neuf, qui est l'étiquette toponymique du château d'Aubenas aujourd'hui.
C'est-à-dire, ça remonte à combien de temps, à peu près ? Est-ce qu'on peut dater ?
Pratiquement pas, non. Quand il n'y a pas d'écrit, les historiens n'osent pas. Personnellement, je dirais, le château étant du XIIIe, on serait peut-être entre 11e siècle, peut-être 12e, plutôt 11e, un peu comme les évêchés de la ville de Narbonne, où il y a le vieil évêché, le nouvel évêché.
Donc cette maison est riche, il y a énormément à dire. Alors, exercice très compliqué, faire court, pour essayer de tirer les éléments les plus saillants de cette maison.
Alors justement, au château vieux, il nous reste dans les rez-de-chaussée d'importants vestiges, tout à fait typiquement médiévaux, qui se répètent. Et on trouve dans la cour aussi une petite trace gothique qui est probablement le signe de la dernière trace de ce château vieux. On ne connaît pas les noms des familles, certains l'attribuent au Tolignan, d'autres refusent cette attribution. Ensuite, l'histoire va passer, cette ruine qui était grande, c'était aussi grand que le château actuel, va être partagée et va se dresser là une maison bourgeoise où on va, le plus ancien que j'ai pu retrouver, là dans des écrits du coup, dans les compois, c'est Michel Vérinck, qui a été un temps syndic du Vivarais, qui était passé du côté des Huguenots, et il est passé là.
On est à quelle époque ?
Eh bien, on parlait de Huguenots, et c'est la fin du XVIe siècle, 1580 ou 70 à 1590, grosso modo. Mmh.
À peu près à cette époque, d'ailleurs, on parle aussi cette maison Werenc, on l'a dit, maison des martyrs.
Tout à fait. Elle a hébergé pendant 4 mois, dans la courte période où Aubenas était redevenu catholique, un père jésuite et son coadjuteur qui le suivait, qui a eu de nombreuses relations avec dans tous les milieux protestants et catholiques, bien sûr qui était là pour prêcher la foi catholique. Et ils vont être, en effet, lors de la reprise d'Aubenas par le lieutenant Sarja, qui venait de Valls, ils vont être kidnappés, ils sont le premier objectif. Après de vagues disputationes, on dirait, ils vont être assassinés devant la maison Lantosé, aujourd'hui pas loin du dôme Saint-Benoît.
Je crois que, Aude, tu as une archive, donc Aude Poinceau, des archives départementales, une archive qui met en lumière ces martyrs jésuites.
Oui, aux archives dans la série D, notamment, on parle de ces pères jésuites, hein, le père Jacques Salès et le frère Guillaume Soltemouche. Et on a des extraits, effectivement, de ces archives qui nous racontent la redécouverte en 1707, dans l'église du collège de Tournon, la redécouverte des reliques de ces deux jésuites. Alors je vais vous lire un extrait, qui est un extrait qui nous fait faire un petit peu d'anatomie, avec une énumération qui permet de constater qu'il s'agit bien des mêmes reliques et de respecter l'endroit précis où elles seront de nouveau enterrées. « Après avoir exactement vérifié en présence de moi, dit notaire, et témoin que ce sont les mêmes reliques et ossements qui étaient dans les dites caisses pourries, à savoir du dit révérend père Salès la tête, scapulas ou os de l'épaule, une vertèbre, une côte, le grand os de la cuisse, l'os latum et l'os de la jambe dit l'os tibial, et du dit frère Soltemouche, 3 vertèbres, 2 côtes, l'os dite de la cuisse, l'os latum et un os du bras appelé radius. Après quoi, toutes les reliques, mise dans la caisse, la dite caisse de châtaignier, avec une séparation au milieu pour distinguer les ossements du révérend père Salès d'avec ceux du frère Soltemouche, ont été enterrés dans le même endroit de l'église où elles étaient auparavant, à savoir le long de la muraille qui sépare l'église de la sacristie près de la porte de la sacristie.
Ces deux personnages font partie des très rares martyrs reconnus par Rome pour cette période de notre histoire en France. J'en ai trouvé 2 autres seulement. À titre de comparaison, en Angleterre, il y en a 80. Donc ça m'a dit quelque chose de notre histoire aussi. Et Jacques Salès était un éminent docteur venu d'un milieu très modeste. C'était un homme calé non seulement dans toutes les langues étrangères anciennes et bien au-delà.
Alors si vous le voulez bien, on va se pencher un peu sur cette cour, puisque c'est dans cette cour que va avoir lieu le 6 juillet le concert par l'ensemble Fabria. Un mot sur cette cour particulière.
Cette cour, les martyrs ne l'ont pas connue, puisqu'elle elle a été transformée complètement au XVIIIe siècle par un avocat, François-Louis Barthélemy, qui faisait partie d'une famille de notables importantes à ce moment-là, au début du XVIIIe siècle. Alors ce brave avocat, il va mettre quand même pas mal de temps pour retaper sa maison dans l'année du XVIIIe. Et donc, la cour est surtout marquée par quelques vestiges dont on a parlé tout à l'heure, mais surtout par un très bel escalier construit par Louis Lédier, qui était un maçon qui mériterait un nom de rue à Aubenas. Elle est remarquable aussi, alors donc, pour sa maçonnerie en pierre, mais aussi pour sa rampe, qui est de style rocaille et qui est bien coté au niveau parisien, dans les archives des monuments historiques.
Et donc c'est là que va avoir lieu le concert, donc avec l'ensemble Fabria. J'ai à mes côtés Estelle Arbulo, qui est violoniste dans l'ensemble Fabria. D'abord, présentez-nous un petit peu cet ensemble Fabria.
Alors l'ensemble Fabria, c'est un ensemble à géométrie variable, ça veut dire qu'on est un nombre de musiciens variable d'un projet à l'autre, mais en gros on est un petit collectif de musiciens professionnels type classique en Ardèche. Et ensuite, selon les projets, on peut aussi inviter d'autres musiciens des départements limitrophes. Mmh. Voilà. Mais du coup, on s'adapte. Et là, effectivement, c'est un concert en violon, violoncelle, guitare, donc c'est une formation pas très courante.
Mmh. Comment vous avez construit le programme ?
Alors, le programme a été construit autour de beaucoup d'œuvres plutôt courtes, avec toutes des... en tout cas, c'est un voyage musical un peu à travers le monde, donc il part d'Ardèche avec Mathieu Leminissier, qui est le guitariste du projet, mais qui est aussi compositeur, donc qui a écrit une pièce pour violoncelle et guitare. Donc ça part d'Ardèche, ça reste un peu en France avec Ravel, et puis ça part ensuite sur d'autres continents, ça part en Amérique du Sud notamment, avec Piazzolla, avec aussi Matos en Uruguay. Et on a ensuite en Europe, on a aussi l'Espagne, on a des chansons espagnoles de Obradors et de Guridi. C'est des chansons écrites pour voix et piano qui ont été arrangées pour guitare et violoncelle. Et on a le premier mouvement du duo de Kodály qui est hongrois. Et voilà, c'est un chef-d'œuvre pour violon et violoncelle cette fois. Donc en fait, on utilise ces cordes. C'est 14 cordes, un peu de différentes manières, avec dans des duos, beaucoup de duos quand même, violon, violoncelle, violoncelle, guitare et violon, guitare, et aussi des trios, le trio de Matos qui est Asparkas, qui est sur le thème de la mythologie grecque, une œuvre que j'ai découverte en préparant ce programme.
L'ensemble Fabria, vous avez décidé de prendre des petites œuvres musicales, enfin des courtes, pas des grandes, mais des courtes œuvres. Pourquoi ce choix ?
Alors, pour moi, c'est... alors, tout est possible, hein. Parfois, on fait des programmes très, très différents, mais en tout cas, on pense que ça va résonner, voir un peu comment on résonne dans cette cour des œuvres différentes, de styles différents. On est quand même dans une unité d'époque, mais pas du tout de culture, vu qu'on part un peu aux quatre coins du monde. Et bon, aussi, pour le public qui va être présent, c'est aussi une expérience, c'est-à-dire qu'il y a des œuvres qui vont plaire, des œuvres qui vont pas plaire. C'est aussi c'est plus simple de ne pas être fan d'une œuvre qui dure 3 minutes que d'une œuvre qui dure 40 minutes, hein, on est d'accord. Et là, il y a plein d'expériences différentes et je suis sûre que tout le monde va y trouver son compte. Et puis, une expérience, on en parlait, mais le spectacle vivant, c'est aussi une expérience. Donc, c'est aussi accepter, comme on va voir un musée devant un tableau, que l'œuvre soit plus ou moins à son goût. Et du coup, on y va aussi pour vivre quelque chose en spectacle vivant. Et ressentir des émotions sans avoir forcément d'ailleurs les mots pour dire si on a aimé ou pas. L'émotion, c'est quelque chose de plus difficile. Donc voilà, c'est aussi plein de petites œuvres avec plein de petites expériences à elles seules qui forment un tout quand même, parce que l'unité du spectacle est vraiment présente.
Alors on va aborder cette question très intéressante, justement, des liens entre patrimoine et spectacle vivant, patrimoine et concert. On va d'abord écouter une courte pièce de Piazzolla. Bordel 1900. de Piazzolla. Vous venez d'écouter, vous êtes dans Archivif, et on parle notamment des liens entre patrimoine et musique à l'occasion du concert qui sera donné dimanche 6 juillet à la Maison Verinck à Aubenas par l'ensemble Fabria. On en discutait juste avant cet extrait, des liens, des expériences uniques. Alors, vous êtes nombreux autour de cette table, donc je le rappelle, Alain Chevalier, propriétaire de la Maison Verinck, Estelle Arbulot, qui est violoniste de l'ensemble Fabria, Aude Poinceau, conservatrice déléguée des antiquités et des objets d'art aux archives départementales, et Enzo Roux. En tant qu'acteur, vous avez des expériences, enfin, acteur du territoire, vous avez des expériences différentes. Que peut apporter le spectacle vivant au patrimoine et vice-versa?
J'ai envie de commencer par dire que le patrimoine s'annonce rapidement comme un lieu de proximité, d'accès à la culture. De nombreux lieux, de nombreuses villes, de nombreuses communes en Ardèche sont dépourvues d'équipements dits culturels classiques, une salle de concert, une salle de spectacle. Et le patrimoine, qui est souvent reconnu comme un marqueur d'identité forte pour le territoire, pour la commune, est souvent aperçu, vu, perçu par les habitants, par la collectivité, comme un moyen d'accueillir ce spectacle vivant qui va faire vivre et qui va donner à tout le monde cet accès-là, parce que c'est un lieu qui est unique, qui symbolise beaucoup de choses et qui a beaucoup à dire, et beaucoup d'interactions se jouent avec le spectacle vivant. Dites-moi si je me trompe, Estelle.
Non, non, c'est ça, et puis c'est une source d'inspiration aussi. Nous, on joue forcément différemment dans un lieu ou dans un autre, dans une salle de spectacle conventionnelle, ou dans une église, ou dans une cour comme celle-là. Ça va être forcément, c'est une expérience pour nous aussi très différente à chaque fois.
Et il y a des acteurs du territoire, j'en parlais, puisque vous êtes invité par La Baume en Musique. La Baume en Musique fait beaucoup aussi pour faire vivre justement le patrimoine.
Oui, La Baume en Musique est en itinérance sur le territoire, donc offre de la culture un peu dans une multitude de lieux sur le territoire, donc des églises notamment, mais pas uniquement. Théâtre de Vals utilisé aussi, mais des cours, la cour du château, ça a été le cas pendant ce dernier festival.
Château d'Aubenas. Alain, est-ce que vous avez quelle expérience vous avez, vous, de ces liens entre spectacle vivant, concert et patrimoine?
Nous, on est surtout, on fait visiter des lieux avec leur histoire. Alors bien sûr, l'événement annuel est important, qui a beaucoup de succès sur Aubenas, c'est les Journées du patrimoine, où nous avons habituellement 700 visiteurs, ce qui est beaucoup, je pense, pour la région.
Est-ce que vous attendez quelque chose de particulier, peut-être un public nouveau qui viendrait découvrir en plus cette maison Verinck, ou pas?
On tient pas une permanence, hein, c'est un lieu d'habitation et on vit là, mais on est très heureux de présenter ces lieux à chaque occasion qui se présente. Souvent on nous appelle pour pouvoir visiter, on ouvre nos portes. Et ça m'amuse de raconter l'histoire de la maison, donc c'est pas trop lourd. Mais cette fois, cette manifestation est liée aussi au fait que nous avons une réponse à donner au département, notamment, qui nous a aidés cette année pour des travaux importants de restauration de l'ensemble des façades de cette maison.
En effet, ça rentre dans cette volonté politique du département d'accompagner l'événementiel sur des lieux patrimoniaux. C'est l'un des critères de sélection pour obtenir ces fameuses aides. Et le département est très porteur, il encourage beaucoup ces initiatives-là de mise en accessibilité de la culture par notamment le lien avec le patrimoine.
Mais alors justement, une question, est-ce que ce n'est pas un peu le même public qui viendrait dans des lieux patrimoniaux et qui est déjà initié ou sensibilisé à la musique, là en l'occurrence à la musique dite classique ?
C'est toute la question qu'on se pose au quotidien, et c'est là qu'on cherche à trouver de nouvelles formes. Et puis bien sûr, l'enjeu n'est pas de rester sur une logique élitiste de la culture, mais bien de l'élargir au plus. Et c'est notamment ce que portent nombreuses compagnies et structures qu'on accompagne, les Cordes en Balade, Labo en Musique, qui ont à cœur de toucher des publics très différents, d'aller vers eux et de ne pas proposer que des œuvres qui sembleraient inatteignables.
Oui, je pense que, oui, effectivement, la Baume en Musique, c'est leur politique depuis quelques années, d'ouvrir le plus possible le public et de former les publics, c'est-à-dire de travailler aussi avec les amateurs dans le but de les sensibiliser et de les intéresser à la vie, d'être partie prenante de la vie culturelle locale en tant qu'amateur, en tant que public. Et du coup, d'avoir envie aussi de voir des spectacles et des propositions nouvelles.
Je me permets de préciser que ce n'est pas le premier concert. Hein. On en donne un ou deux chaque année, quand même. C'est un ténor qui, un beau jour, est venu un peu fredonner dans la cour de l'escalier et qui a trouvé l'acoustique excellente. Voilà, c'est parti.
J'ai hâte d'essayer.
Venez voir ça. Donc, ce sera le 6 juillet dans la cour de la maison Werenck à Aubenas. Le programme exact, Enzo?
Alors, rendez-vous à 17h au 8 rue Jourdan, donc à Aubenas, pour l'ouverture des portes de cette cour. Un petit moment de visite libre. Le propriétaire, M. Chevalier, sera présent si besoin pour répondre aux questions des visiteurs. Une magnifique cour à découvrir, des traces archéologiques. Il faudra bien lever la tête pour bien observer tout cela. À partir de 17h30, petit mot de présentation, invitation au concert, on prend place. Et dès 18h, début du concert et de ce temps musical avec l'ensemble Fabria.
Est-ce que l'ensemble Fabria, est-ce que la maison Werenck, par leurs représentants, veulent ajouter quelque chose?
Nous offrirons à la fin du concert un léger apéritif pour que les gens puissent se rencontrer, les artistes et les personnes qui viendront profiter de cet événement.
Voilà l'accès à la culture.
Et nous, on se réjouit d'avance.
Et je précise bien sûr que l'événement est en place limitée. La cour ne peut pas accueillir tout le monde. Donc pensez bien à réserver vos places. C'est un événement qui est totalement gratuit en partenariat avec la Beaumont Musique et le fonds de dotation Abbaye de Lubilac qui nous accompagne sur les 07 Merveilles de l'Ardèche. Inscription sur ardèche.fr/07merveilles ou alors par mail 07merveilles@ardèche.fr.
Et la suite du programme, la suite des 07 Merveilles de l'Ardèche?
Exactement, prochain podcast, on monte sur la montagne, on va à la ferme de Clastres à Sainte-Eulalie pour également un temps musical avec la Fédération des musiques et ateliers de danse traditionnelle de l'Ardèche qui invite là aussi un trio, l'ensemble le Sorgue, pour un très beau concert devant cette ferme médiévale.
Merci beaucoup Enzo et merci à tous les quatre d'être venus. Alain Chevalier, propriétaire de la maison Werenck, Estelle Arbulo, violoniste de l'ensemble Fabria, Aude Poinceau, conservatrice déléguée des antiquités et des objets d'art aux archives départementales et bien sûr Enzo. Merci à tous. Vous pouvez retrouver cet épisode comme tous les archivifs sur les sites des trois radios partenaires RDB, RCF et bien sûr Fréquence 7. Merci à vous.
Merci.
Merci.
Merci. Merci.
Archivif. Un voyage entre culture, patrimoine et sport au cœur du département de l'Ardèche.